Et donc, Pizarro, à la tête, donc il décide à la fin de... Il en a assez de parler de cet or, il dit « Moi, je vais le trouver ». Il le prend, 180 bonhommes, 30, 37 chevaux, un petit canon, des quelques armes à feu, et les voilà partis dans la jungle, en train de chercher où est donc cet or dont tout le monde parle et que personne ne voit. Il est parti comme ça, et il arrive, là où ça devient super intéressant, il arrive à la cour de l'Inca. Alors là, c'est vraiment l'Inca. Voilà. Donc là, on est en 1400 ou 1500. Voilà. Donc là, il arrive à la cour de l'Inca. Lequel Inca était parfaitement au courant de la progression de cette petite troupe de gens. Il ne faut pas du tout croire qu'il les a pris par surprise. Pensez bien que des gars qui se débattent dans la jungle à avancer péniblement.
Surtout que les Incas, ils marchaient, couraient très très
vite. Bah oui, donc l'Inca le connaissait savait très très bien. Et voilà la troupe qui s'installe quelque part. Et donc l'Inca veut lui rendre visite, une visite de courtoisie. Voilà. Et donc la visite de courtoisie, il lui offre à boire. Comme vous venez chez moi, bah, vous voyez bien un petit coup. Alors, il lui offre à boire du jus de maïs fermenté. Bon. Mais ce jus de maïs fermenté était servi dans des coupes en or, massif. Et là, je crois que ça les a beaucoup, c'est plus que le jus de maïs fermenté, c'était surtout la coupe en or qui les a vraiment allumés. Bon. Mais ils ont conservé leur sang-froid, les bonhommes. Ils ont conservé leur sang-froid, ils ont bu gentiment leur maïs fermenté.
Et la chicha.
La chicha. Et donc, ils ont conservé totalement leur sang-froid. Il faut dire que c'est extraordinaire. Bon, donc, ils décident pour le lendemain donc de refaire revoir le lendemain. Pendant ce temps-là, donc, Pizarro dit à ces gens de faire briller leur casque, de bien vérifier leur mousquet et le canon, d'attacher des clochettes sur les chevaux de partout et de cacher tout ça. Donc, le lendemain, l'Inca vient avec un millier de courtisans portés sur un trône en or massif. Rien que le trône pesait 90 kilos, déjà, il fallait des mecs costauds pour porter le trône, plus l'Inca. Bon, là, donc l'Inca bien dodu d'ailleurs, bien nourri et tout. Et il vient donc avec ses courtisans, désarmés, parce qu'au pied de la colline, et quand Pizarro et ses copains ont vu ce qu'il y avait au pied de la colline, ça les a quand même fait pâlir. Il y avait une armée de 10 000 hommes à peu près. Alors, il leur a dit, non, vous n'ayez peur de rien, Dieu est avec nous, il est toujours, toujours du bon côté Dieu, Dieu est avec nous, vous inquiétez de rien, ça se passera très bien. L'Inca arrive, donc il voit juste Pizarro avec quelques copains, il voit plus les autres, mais il ne s'inquiète pas, donc il débarque de son trône en or, la discussion reprend. Pizarro, sur un signe, lâche ses chevaux, les clochettes, le canon tonne, les mousquets font feu, les pauvres courtisans complètement désarmés, donc on panique, ils font un carnage parmi les courtisans. La seule blessure que Pizarro a reçue, c'était d'un de ses propres hommes au bras parce qu'il protégeait l'Inca, parce que il le voulait vivant. Il chope l'Inca. L'armée ne bronche pas, n'ayant pas d'ordre, fort disciplinée. Voilà, comme toutes les armées du monde. Pas d'ordre, on ne fait rien. Donc, l'Inca est prisonnier dans une chambre. Donc, la chambre, elle fait 3 mètres sur 7, sur 3 de haut. Voilà. Quelque chose comme ça, je crois. 3 mètres, vous verrez tout ça. Voilà. 5 mètres sur 7 et 3 de haut. Bon, ben, c'est à peu près comme ici. Voilà. À peu près les mêmes dimensions. Sauf que là, il n'y a pas 3 mètres de plafond. Il n'y a que 2 mètres 60. Donc, un peu plus haut de plafond. Et là, l'Inca lui-même, il prend un sabre et trace une ligne, donc à hauteur de d'homme plus le sabre, en disant « ma rançon serait de remplir tout ça d'or ». Voilà. Et l'Inca trouve ça normal, parce que lui, il est le représentant du soleil sur terre. Encore une fois, chez les Incas, l'or, le soleil, le cœur, le sang, était quelque chose de lié. L'or n'était pas quelque chose de commercial, comme chez nous. Est-ce que vous vous sentez bien? C'est ça que je vais vous faire sentir. L'or n'était pas quelque chose, c'était pas une monnaie d'échange, c'était pas fiduciaire. L'or était autre chose, c'était un matériau sacré qui représentait encore une fois l'or, le sang, le cœur, etc., le soleil. Donc l'Inca, qui est le représentant du soleil sur Terre, trouve ça normal qu'on l'échange contre de l'or. Bon, le deal est fait, il a gardé un mois le Pizarro dans la chambre. La chambre s'est mise à remplir d'or. De partout de l'Empire, l'or affluait. On arrachait toutes les plaques du temple du soleil, on arrachait toute la vaisselle, enfin, tout ce qui pouvait être en or, on amenait tout cet or en vrac.
C'est un peu comme Acme au Maghreb.
Voilà. Et donc, la chambre a mis deux mois ou quelque chose comme ça à se remplir d'or. Bon. Au bout de deux mois, évidemment, l'Inca, parce que on comprenait très bien que si on le relâchait, ça ferait un ferment de révolte. Et donc, techniquement parlant, on ne pouvait pas le relâcher. Hein. Mais c'est comme maintenant, en général, si on est kidnappé, il y a peu de chances qu'on vous relâche. Enfin bon, c'est la complication. Quand on est kidnappé, c'est au moment où on paye la rançon que les choses peuvent se gâter. Parce que il n'est pas très... Il est dangereux de relâcher le prisonnier. Donc, au moment où la rançon était payée, donc imaginez-vous cette chambre, donc un peu plus haut de plafond, remplie d'or. Bon, pas de l'or, des lingots comme ça, tassés. Mais enfin, ça faisait quand même 9 tonnes. Hein. Une fois tout tassé, tout... Alors, bon, donc comment ramener ce... Alors là, il y a... Donc, comment ramener tout ça en Espagne? Bon. D'abord, on est loin, on est dans les Andes, on est dans la montagne et tout. Bon. Donc, évidemment, l'idée la plus simple, eh ben, c'est tout fondre. Mais quand même, pour amuser un peu Charles Quint, donc Charles Quint d'Espagne, eh bien, pour l'amuser, pour lui montrer un peu de quoi les choses sont faites, on lui envoie un petit colis. Alors, je vous ai donné la liste du petit colis. Je ne vais pas vous la lire parce que c'est super long, mais vous la trouverez dans mon livre, là, un petit colis. Donc, il n'y a pas eu d'inventaire direct, parce que ça n'intéressait personne. Mais, en gros, n'est-ce pas, un mémoire qui a été fait après coup, 24 récipients d'une contenance de 7 seaux, d'une épaisseur d'un demi-doigt, 13 planches ou plaques, grandes, petites, etc., bon, des portes, des bancs, 50 petits plats d'or pour service de table, 2 grands plaques d'or, enfin, des écuelles, et bon, vous lirez la liste que je ne des limaçons, des, bon, des caisses en or, des 4 lunettes d'or, et autres, bon. Donc, vous verrez tout ça, et c'est, malheureusement, la seule chose dont on dispose aujourd'hui comme pièce de musée, si vous voulez.
Tout est fondu.
Tout le reste était fondu. Tout le reste était fondu en lingots, transporté par dos de mulets ou de je ne sais pas trop quoi, d'hommes, de mulets, dans les bateaux. Et là commence donc une énorme coulée d'or, voyez, comme un barrage qui crève d'un seul coup. Imaginez-vous qu'on est au pied de la montagne et qu'il y a le barrage, et que le barrage crève, et ben vous voyez cette énorme masse qui va se mettre à déferler sur toute l'Europe. L'Europe possédait, en gros, elle possédait à l'époque, donc en gros, je vais vous donner les chiffres, 160 160 tonnes en gros. Voilà. Elle possédait 160 tonnes d'or en gros, en Europe. Bon, d'après nos estimations, bon, bien sûr, elles sont toutes sujettes à caution, mais enfin, on a quand même une petite idée. Et donc, à la fin de cette aventure donc, d'Amérique latine, des conquistadors, c'était 1 600 800 tonnes d'or. Donc, on a multiplié la quantité d'or en Europe par 1000, pratiquement en quelques années. Voilà. Donc ce déferlement d'or qui a coulé comme un fleuve, comme ça, qui rompe sa digue, qui coule, comme ça, qui déferle. Donc comment les Espagnols faisaient pour le ramener? Parce que c'était pas le tout de le récupérer, il fallait le ramener. La chose n'était pas si facile que ça. Ils étaient assez astucieux. Ils avaient des grandes caravelles qui étaient comme nos tankers, enfin nos paquebots, enfin des trucs en lourd, quoi. Les caravelles, c'était quelque chose de lourd. Et donc, des galions, c'était des galions, c'était lourd. Donc là-dedans, on embarquait l'or par dizaines de tonnes. Hein. Bon. Alors le bateau était bien enfoncé, ça allait lentement, et donc il était totalement à... il y avait des chasseurs qui étaient des corsaires qui pouvaient l'attraper très facilement. Hein. Bon, bah, c'est comme aujourd'hui, dans le détroit d'Ormuz, exactement la même situation. Vous avez des tankers qui sont lourds et qui sont facilement à rattraper par des navires légers, rapides et maniables.
Les corsaires, c'était des corsaires. De la reine d'Angleterre.
Alors, les corsaires étaient de France.
Ouais.
Et donc, et des Turcs aussi. Ils ne gênaient pas. Donc, pour éviter donc, les corsaires qui avaient des bateaux rapides, maniables et armés, lourds, enfin fortement armés, avec des marins de qualité, pour rattraper... Donc, les Espagnols faisaient ce qu'on appelait des flotas. Des flotas d'une flotte. Ils rassemblaient leurs navires donc, en rond, en masse. Et il faisait comme ça, il décidait deux fois l'an. Il y avait donc une traversée de l'Atlantique, des flottas comme ça. Alors il y avait toujours quelques traînards qui s'égaraient, et ça, tant pis pour eux, ils étaient rattrapés par les corsaires, et cela, on n'en parlait plus. Mais en gros, si vous voulez, en gros, comme ça, l'or, ils en perdaient, on compte, nous, ils en perdaient 5 à 7% à peu près, en tout. Qui se retrouvaient ou d'autres mains ou au fond de l'Atlantique. Mais en gros, quand même, ils arrivaient. Bon. Là-dessus, Charles Quint prélevait, comme aujourd'hui, la TVA, hein, qui s'appelait la quinta, c'est-à-dire un cinquième. Donc, la TVA, on n'a rien inventé, rien de nouveau sous le soleil. Donc la quinta, c'était un à la chambre de contraction. Voilà. Donc, et tout ça a été apporté dans un endroit spécial. Les caisses avaient trois serrures, chaque un gars avait une serrure, donc il fallait trois officiers pour ouvrir la caisse, et tout était réglementé, et puis enfin bon, et donc après l'or. Alors qu'est-ce qui devenait cet or? Parce que le sujet principal de notre histoire, c'est l'or. Hein. Eh bien, il s'en allait dans les mains des uns et des autres, et puis il finissait en Europe, parce que les Espagnols ne faisait plus rien. C'est le drame des pays qui ont des biens pétrole ou des trucs comme ça. Il y a un ministre russe qui a dit que quand la Russie n'aura plus de gaz, enfin elle pourra évoluer. Voilà. Parce qu'actuellement la Russie, et comme tous les pays pétroliers et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs trucs, l'argent s'en va d'une main à l'autre et le pays ne fait plus rien. Hein, en Russie, actuellement, c'est le cas.
Venezuela aussi.
Venezuela, enfin, entre autres. Hein, Renault va leur faire leurs voitures. Là, Renault est en train d'installer des usines, de reprendre des usines, et c'est Renault qui va leur faire leurs voitures. Voilà. Bon, les fameuses voitures russes seront maintenant fabriquées par Renault. Nous, là-bas, chez eux, mais quand même. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui est arrivé. Tout cet or a déferlé sur l'Europe. Et... alors ils sont arrivés à un truc assez marrant, auquel ils ne s'attendaient pas du tout. à la dévaluation. Il fallait de plus en plus d'or pour payer les mêmes choses. Mais pendant le Moyen-Âge, il faut dire que la stabilité de la monnaie était très performante. Pendant des siècles, on peut dire qu'il n'y avait pratiquement pas d'inflation. Donc les gens étaient surpris qu'il faille donner de plus en plus d'or pour avoir les mêmes produits ou le même travail. Donc l'inflation est arrivée pas tellement importante, mais pour l'époque, les prix se sont multipliés par entre 7 et 9 fois en un siècle. Pour nous, c'est commun, mais pour eux, c'était une nouveauté. Ils ne comprenaient pas très bien, ils n'ont pas compris le mécanisme.
C'est pas évident.
Quel siècle, quand on est
habitué à... Oui. Et puis, évident. Pardon.
Entre
1550 et 1650, les prix se sont multipliés par 7 fois, en gros. Vous aurez un petit tableau de ce qu'on pouvait acheter avec la même quantité de... Alors les Espagnols se sont lancés dans des guerres inutiles contre les Français, contre les Anglais. Enfin, vous lirez l'histoire. Entre autres, il y a eu une réunion qui était très marrante, dont Shakespeare a parlé, entre donc Henri VIII d'Angleterre et François Ier. Alors, maintenant, par exemple, les gens riches, qu'est-ce qu'ils font? Vous les voyez dans la rue, les gens riches prennent le métro, mais ils sont habillés comme vous et moi. Alors qu'à l'époque, quelqu'un de riche, il affichait sa richesse. Maintenant, on la planque, hein, on a un coffre en Suisse, mais on ne se balade pas avec une chaîne d'or sur le ventre.
Hein. Sauf les rappeurs.
Surtout pour prendre le métro. Bon, alors que donc Henri VIII, en toute modestie, il avait une chaîne d'or qui pesait 3 kilos déjà. Déjà, rien que ça. Bon. Et donc, ils se sont réunis à Calais, les deux rois, avec une impressionnante, je vous décris ça, une débauche d'or, n'est-ce pas? Henri VIII arrivait avec 4500 suivants et 1200 suivants pour la reine, et 3000 chevaux. François Ier le reçut parmi 2800 tentes dont le tissu était tissé avec des fils d'or. Les armures étaient en or, les éperons étaient en or, ce qui était des mauvais éperons d'ailleurs, parce que ça ne pique pas beaucoup. Et puis, mais donc tout le monde affichait sa richesse. Enfin, bon, ils se sont essayés de se impressionner l'un l'autre, enfin ça n'a pas trop donné parce que la guerre a repris tout aussitôt. Mais enfin bon, c'était un G2 qui était magnifique. Pardon ?
On se la pétait grave à cette époque.
Donc, vous voyez, l'or servait... Non mais, mon sujet, c'est l'or. À quoi il sert ? À quoi il peut servir ? Donc, au départ, il sert à rien. Bon, l'utilité concrète, zéro, aucune. C'est un métal qui n'a aucune... Bon, ça coupe pas, c'est pas très solide, on peut pas en faire des pièces de mécanique, voilà. Mais... Je répondrai à cette question tout à l'heure, mais on a décidé donc que c'est une réserve de valeur. Voilà. Tout le monde est d'accord et de tout temps que c'était une réserve. Pas tout à fait. Si vous lisez mon livre sur l'or antique, justement, l'or des pharaons n'était pas une réserve de valeur. C'était pas un. Pour les pharaons, ils le mettaient dans les temples, ils faisaient des masques parce que c'était beau, etc., parce que c'était apparenté encore une fois au soleil, mais ce n'était pas une réserve de valeur, parce que si vous avez une réserve de valeur, vous ne la mettez pas dans un endroit auquel vous ne pourrez jamais toucher. Vous me suivez ? Le but d'une réserve de valeur, c'est qu'on puisse de temps en temps le reprendre. Bon, si je vous dis votre réserve de valeur, vous allez mettre dans un gouffre qui est inatteignable par personne, vous allez dire, et non, ça ne m'intéresse pas de le mettre dans ce gouffre. Bon, donc je préfère l'avoir à portée de main. Or, les pharaons se faisaient enterrer avec les masques et les machins et tous leurs objets, et puis ils faisaient ébouler l'entrée de façon à ce que plus personne jamais n'y aille. Enfin, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais le but était justement de tenir le truc secret, etc. Donc, encore une fois, pour les Égyptiens, l'or n'était pas une réserve de valeur. Mais après, elle est petit à petit devenue. C'est ça qui est intéressant. Pour les Incas de tout à l'heure, ce n'était pas une réserve de valeur. L'or appartenait à l'Inca, mais il appartenait au soleil. Mais ils ne s'échangeaient pas entre eux. Alors qu'en Europe, évidemment, l'or était devenu une monnaie d'échange, et comme je vous ai raconté. Et donc il fallait au contraire s'impressionner. C'est devenu quelque chose qu'il fallait exhiber pour montrer tout ce qu'on a. Hein. Les riches portaient tous leurs bijoux en apparence. Hein. Plus on en jetait, hein, mieux ça allait. Voilà. Donc ils avaient des chaînes, des machins, d'ailleurs, à ce propos, il y a une petite chose là, dramatique. Vous savez, les gobelins, les beaux gobelins commandés par Louis XIV étaient avec des fils d'or. Et les révolutionnaires, incultes comme ils étaient, ils ont tous brûlé pour récupérer cette pauvre quantité d'or qu'il y avait dans les gobelins. Hein, ils ont brûlé des centaines de gobelins de Louis XIV pour récupérer quelques parcelles. Non, mais les révolutionnaires, ça n'a jamais réfléchi très longtemps. Et ça n'a jamais tenu les objets d'art pour de la valeur. Donc, ainsi, voilà notre... Bon, vous verrez les armures et tout. Bon, manifestement, ces armures n'étaient pas faites pour combattre. Hein. Il ne fallait pas l'abîmer. Bah oui. Bon, vous verrez tout ça sur mon bouquin. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, la dévaluation, je vous en ai parlé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on revient au... donc à nos Incas et tout ça. Bon, alors après ça, après avoir pillé et volé tout ce qu'on pouvait voler et piller, bon, alors à ce moment-là est arrivé un moment où il fallait commencer à exploiter les mines. Bon, et là, donc les Espagnols les ont tellement bien exploités qu'ils ont anéanti, pour ainsi dire, la population locale. Oui, enfin bon, pratiquement, enfin bon, concrètement, ils faisaient travailler tout le monde jusqu'à la mort. Et ils ont été obligés d'importer des Africains, des Noirs d'Afrique, pour continuer le boulot. C'est pourquoi, donc on peut dire qu'il n'y a plus de... La civilisation Inca et tout ça était complètement anéantie, le peuple était anéanti, enfin il ne reste personne. Hein. Ils ont été hyper mélangés entre les Hispaniques qui sont arrivés, les Noirs qui sont arrivés, et puis d'autres, enfin je ne sais pas, enfin bon, mais les purs indiens, amérindiens de départ, les purs, il n'y en a plus, pour ainsi dire. Enfin, peut-être très peu. Bon, donc là, ils ont complètement massacré, après ils se sont allés attelés à l'argent. Hein. Alors, il y avait une montagne qu'on appelle Potosi, qui était une montagne avec des mines d'argent. Et là, ils l'ont exploité avec la même férocité qu'ils ont exploité l'or. Alors, le problème de l'or, de l'exploitation, c'est que pour purifier le métal, bah, au début, c'était purement mécanique. Alors, on ne savait pas très bien faire. Et puis, pour séparer l'or de l'argent, vous savez que l'or et l'argent aiment bien être ensemble. En général, dans les mines, l'argent naturel, l'or naturel et l'argent naturel sont en général mêlés. Et les premiers, vous regardez ça dans l'or de l'Antiquité, Crésus, vous connaissez tout le monde le nom de Crésus. Bon, ben pourquoi il était riche? Ben oui, il était riche parce qu'il a découvert un fleuve, où au fond du fleuve, il y avait ce qu'on a appelé l'électrum. C'était des petits lingots d'or et d'argent mélangé. Hein, l'électrum, c'est un métal à titre variable de l'or et d'argent mélangé. Bon. Vous lirez l'histoire dans l'or de l'Antiquité de notre ami Crésus, je ne reviens pas là-dessus, mais le problème était comment séparer l'or de l'argent. Hein. Et lui, il a eu la première idée qui était bonne, qui était longue, mais bonne. Alors on fond le métal. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui est plus léger, l'argent ou l'or?
L'argent.
L'argent, oui. Alors bon, qu'est-ce qui se passe quand on fond le truc? Eh bien, ce qui est lourd va au fond, et ce qui est léger va en haut, d'accord? Donc on verse doucement, là, quand le métal est fondu, on verse doucement ce qui s'appelle une coupelle, ça s'appelle le coupelage. C'est-à-dire la coupelle avec le métal fondu, on verse doucement la première couche superficielle, donc il vient d'abord de l'argent. Voilà, et on le sépare. Et puis après, donc, l'or reste au fond. Alors, comme chaque manipulation n'est pas parfaite en soi, on répète le truc un certain nombre de fois jusqu'à temps qu'on obtienne. Et là, le camarade Crésus, il avait de l'or à un très bon titre. Voilà. Et donc là, bon, vous lirez dans mon livre, et là, ça donnait l'idée aux gens d'avoir une réserve de valeur. En fait, l'idée de la réserve de valeur est partie de là. C'est qu'on a obtenu de l'or avec un titre relativement pur, alors qu'avant, c'était des titres variables, et personne ne savait ce que ça valait exactement. Bon, mais vous lirez mon premier bouquin, il est, je pense, intéressant. Et donc, on en revient à... Où est-ce que j'en étais ? Pourquoi je vous ai parlé de ça ? Ah oui, 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 oui. Alors, on en était resté là jusqu'aux Espagnols qui minaient et tout. Et puis est arrivée donc une idée dramatique sur le plan écologique, mais terriblement fonctionnelle. Alors, quand vous avez du sable avec des particules d'or, pratiquement microscopiques, vous mettez du mercure, qui lui se trouvait en Espagne en grande quantité à l'époque, vous prenez du mercure, vous mettez tout ensemble, vous mélangez mercure et le sable, bon, et le sable aurifère, j'entends. Le sable va au fond, donc on s'en occupe plus, on verse le mercure qui a dissous, entre guillemets, l'or. Il n'a pas dissous chimiquement, mais il a dissous physiquement. Donc ça s'appelle de l'amalgame.
Donc, c'est ce que font les orpailleurs.
Voilà. Donc, on a un liquide qui contient donc mercure et or. Donc, l'or n'est pas dissous chimiquement, il reste chimiquement le même. Mais physiquement, il devient liquide. Voilà. Il a absorbé comme le mercure l'a absorbé comme une éponge. Voilà. Donc, quand vous avez fait cette opération un grand nombre de fois, eh bien, vous versez le tout dans un godet, vous chauffez le tout, le mercure qui est volatile à des basses températures, il s'évapore, donc on en respire tant qu'on peut, mais ce n'est pas un problème, et l'or reste au fond de votre truc. C'est comme ça qu'on fait encore aujourd'hui, malheureusement, en Amazonie.
Voilà. Pas tout le monde, mais...
Presque. Bon, enfin, c'est très pratique en tout cas. Alors, on évapore le mercure, qui disparaît en tant que vapeur, et l'or reste au fond. Alors après, il y a une petite, encore un truc à faire, c'est qu'on verse de la résine chaude dessus, donc dans le mélange or liquide, et le mercure est en partie, on verse de la résine dessus, qui récupère toutes les impuretés, et on a un lingot d'or à 99% en général, pratiquement apporté à la Banque de France tel que, hein. Voilà. Donc cette pratique-là a été découverte au XVIIe siècle, qui fonctionnait très bien. Donc on a évidemment pollué tout ce qu'on a pu polluer, mais au début ils savaient pas, après ils savaient.
Et là,
mais...
les Indiens, ils continuent à être très mal en point au niveau sanitaire, parce qu'ils bouffent dans les poissons, dans les fleuves, qui récupèrent toute cette vapeur de mercure. Tous les fleuves de Guyane notamment.
Je vous le fais pas dire. Voilà comment ça fonctionnait. Et puis après, on a découvert des mines un peu partout, en Alaska, en Amérique. Enfin bon, peut-être j'écrirai un autre bouquin sur les mines, la ruée des lords, de l'or de.
Enfin, Lord Klondike.
Oui, mais bon, voilà, c'est toute une autre histoire. Mais enfin voilà, je voulais vous dire donc la trame de la chose, c'est que il y avait des mystères. Des pratiques religieuses, les mystères, c'est des pratiques religieuses. Des pratiques religieuses en Amérique donc, du Sud, qui avaient pour but, donc, d'arimaniser complètement la terre et de priver la terre de ses habitants, d'arracher les habitants vers une planète qui serait donc sous l'égide d'Ahriman. Ahriman veut recommencer la création pour son propre compte. Voilà. Il ne veut pas la création du Christ, il veut la création de refaire la création pour son propre compte. Donc ces tentatives, une création mécanique, et la Terre ne deviendra que mécanique, complètement mécanisée. Donc, pour arrêter cette pratique religieuse, pour arrêter ce mage noir, donc... on a lancé l'Europe en excitant la cupidité à travers le Livre des Merveilles de Marco Polo et puis tous les conquistadors qui ont suivi et qui ont dévasté donc la culture inca.
Donc ces événements terrestres sont inspirés par les anges.
Tout à fait. Mais évidemment, les Espagnols en ont trop fait, hein, et karmiquement, ils subissent maintenant un peu le contre-coup, parce que si au départ, c'était plus ou moins voulu, ils en ont tellement mal... ils ont tellement usé et abusé et exterminé que maintenant, vous voyez, l'Espagne est devenue un pays pauvre. Voilà.
Qui fout de la merde en ce moment.
Ouais. Alors donc, vous voyez, le châtiment karmique est quand même là, hein, parce qu'ils ont quand même particulièrement été sauvages, si j'ose dire. Alors, et mon or, alors, mon or, puisque c'est le sujet principal de mon étude, donc mon or, bah, il s'est enfui à l'Est, même jusqu'à maintenant, hein. On a tracé maintenant, parce que vous savez, il y a des isotopes, donc chaque or signe son origine. Alors bon, ça se mélange évidemment, parce qu'on passe son temps à fondre et à refondre des trucs. Mais enfin, il s'est retrouvé dans les lingots en Russie, l'or des Incas, bah, de paiement, machin, en échange.
Je peux te dire comment, c'est que pendant la guerre civile, les républicains se sont fait aider par les Russes.
Par les Russes.
Oui. Et les Russes ont fait payer ces armes en or.
Oui, oui.
Et c'est l'or des Aztèques, qui était dans le
en
trésor.
Partie, oui. Enfin bon, et maintenant il va en Chine. Rien n'est gratuit, surtout pas les armes. Et rien n'est gratuit, donc tout se paye dans ce monde. Et donc, mais j'essaye de garder encore 5 minutes pour répondre à la question, en fait, qui est quand même intéressante. Comment se fait-il que l'or ait cette attraction sur les gens? Je suis absolument certain, il faudrait que si on mettait, je ne sais pas, différentes réserves de valeur, par exemple. On dit à quelqu'un, il choisit une chose. Alors on met un lingot, et puis à côté on met le prix en billets, et puis à côté on met, je ne sais pas, des actions de la bourse, enfin un certain nombre de choses comme ça. Et je suis sûr que la majorité des gens prendraient l'or. J'en suis tout à fait convaincu. Enfin bon, quelques gens diront non, finalement j'ai besoin d'acheter une voiture, etc. Mais au-delà du raisonnement intellectuel, eh bien la main instinctivement se tendrait vers les pièces d'or et pas tellement pour les billets. Si on leur dit c'est exactement la même valeur, voilà, vous prenez un truc. L'or a un pouvoir magnétique spirituel d'attirer, si vous voulez, le regard, d'attirer le cœur, d'attirer les gens. Et comment ça se fait? Au début de la création, donc je vous simplifie le truc parce que ça sera l'objet d'une autre conférence plus détaillée, mais je vous donne quand même un petit chemin pour réfléchir. Au début de la création, donc chaque planète émettait dans l'astral. Émettait des énergies astrales pour faire son métal sur la Terre. Hein. Donc, le Mars, ben c'est le fer, Vénus, c'est le cuivre, Jupiter, c'est l'étain,
et le Soleil.
Et Mercure, c'est Mercure, qui est resté liquide d'ailleurs parce que Mercure est jeune, il n'a pas mûri. Le mercure a toujours été représenté comme un adolescent, parce qu'effectivement le métal n'est pas mûr, c'est un ado. Hein. Voilà, c'est pourquoi il est liquide encore, parce que tous les métaux étaient liquides. Bon, là-dessus tout le monde est d'accord, les géologues et tout, quand la Terre était chaude, tous les métaux étaient liquides. Bon, donc, mais lui, Mercure, est resté liquide encore parce qu'il est jeune, il n'a pas mûri. Bon, Et d'ailleurs, les alchimistes, un jour, on fera une conférence là-dessus, les alchimistes disent bien que Mercure est jeune, il n'a pas mûri. Les alchimistes l'ont bien remarqué. Donc, qu'est-ce qui me reste? Je vous ai dit, donc Mars pour fer, l'étain pour Jupiter, Mercure, le cuivre pour Vénus, Mercure pour Mercure, ah, il m'en reste en deux.
La lune pour l'argent.
Donc le plomb pour Saturne, le plomb pour Saturne.
Et l'or pour le soleil.
Voilà, donc il reste deux métaux particuliers. Bon, mais cela n'était pas encore formé. Donc ça, c'était les planètes qui envoyaient leurs énergies astrales pour que dans la Terre, ces métaux se forment. Bon. Alors, il y a donc des êtres, comme je vous ai dit, réguliers, des hiérarchies régulières, et puis il y a celles qui sont des hiérarchies qui sont en arrière. C'est là celles qu'on appelle luciférienne, c'est des hiérarchies retardées, donc qui n'ont pas la puissance des hiérarchies régulières. Elles n'ont pas cette puissance, mais ils veulent faire pareil. Enfin, les hiérarchies lucifériennes sont restées en arrière. Elles n'ont pas fait le développement personnel qu'elles devaient faire. Et donc, elles n'ont pas la puissance des hiérarchies régulières, mais elles veulent faire les mêmes choses. Donc, le soleil qui émettait ses rayons faisait de l'or. Seulement, encore une fois, à la place de rester uniquement dans l'astral, il est descendu. Alors qu'est-ce qui est en dessous de l'astral? Eh bien, c'est l'éthérique, hein, physique, éthérique, astral. Donc il est descendu d'un cran, et donc l'énergie de l'or n'est pas astrale, elle est éthérique. Est-ce que je me fais bien comprendre? L'éthérique, c'est l'énergie de vie. Bon, c'est notre corps éthérique, c'est le corps qui nous fait vivre, qui anime le physique. Le physique, c'est que les matériaux...
C'est la vitalité.
Bon, et donc l'or possède une espèce de vie illicite, certes, illicite, certes, mais il possède un peu de vie à la différence des autres métaux. Et il avait ce pouvoir de vie tellement fort que si on l'avait laissé faire, il aurait transformé tous les autres métaux en or. Donc sur la planète, il n'y aurait eu plus que de l'or. Donc toute vie était impossible, etc. Et donc, il a fallu que d'autres êtres spirituels interviennent pour faire une antidote à l'or, pour stabiliser la situation. Et donc, l'antidote, c'est l'argent. Voilà pourquoi l'or et l'argent, je vous l'ai dit, étaient liés, hein, très souvent. En tant que minerai, ils sont liés. Hein. L'argent et le plomb est lié, et l'argent et l'or est lié. On trouve rarement de l'or, encore une fois, à l'état complètement pur, il est toujours lié à l'argent. Je vous ai parlé de la coupellation.
Les pépites d'or qu'on trouve, c'est mélangé avec de l'argent.
Oui, oui, en général, à des titres divers, mais pour avoir de l'or pur, il faut le purifier au moins avec la coupellation, comme savaient le faire déjà les anciens. Donc voilà, donc je vous ai donné la clé. Bon, on en reparlera une autre fois, mais je vous ai donné la clé pourquoi l'or a cet attrait très particulier, parce qu'il lui reste quelque chose qui est comme une espèce de vie, qui n'est pas une vraie vie, mais qui est plus que les autres matériaux, qui sont simplement des matériaux inertes. Et on ressent, l'homme ressent cette vie dans l'or, et c'est pourquoi il est particulièrement attiré par ce métal qui, par ailleurs, en dehors de la réserve de valeur ou d'être joli, bon, il est très beau, il est brillant, il est inaltérable, et tout ça fait qu'il est extensible. Enfin bon, l'or est très, très mou, hein, vous le savez. C'est pour ça qu'on peut en faire des fils très fins, on peut recouvrir les toitures.
Les batteurs d'or,
on
va acheter toutes petites feuilles d'or, voilà. En film, quoi.
Voilà.
On vous a montré une fois ici.
Oui, oui, vous voulez que je vous montre, si vous avez une minute, je peux vous montrer peu d'or.
On a même mangé l'autre fois.
Oui.
J'avais entendu, moi, que l'or avait pris beaucoup de valeur, parce que justement, c'était un métal mou qui travaillait facilement.
Oui, c'est unique. Oui, oui, à propos de manger, oui, oui. Il y a des confiseurs qui s'amusent à faire des bonbons avec de l'or. Ben, vous pouvez le manger, il ne se passe rien. Oui, des chocolats avec un petit peu d'or.
On ne jette pas le papier, on mange tout.
Non, mais le bonbon, le chocolat, il y a une petite feuille d'or. Oui, oui. Ben, c'est inoffensif. Hein, ça.
C'est ça coûte pas tellement cher, hein. C'est tellement fin.
Oui, c'est tellement fin. Bon, il y a des grands chocolatiers. Qu'est-ce qu'il y a comme chocolatier là? Attends, il y a un nom qui me traîne là. Et puis, tu dois connaître. Allez. Donne-nous des grands chocolatiers. Qui font des bonbons. Peu importe. Je pensais à un autre, mais enfin bon, le nom ne vient pas. Peu importe. Eh bien, je vais vous montrer si ça vous intéresse. Alors voilà. Donc vous avez droit à un ouvrage. Bon, j'espère que vous en prendrez soin, que vous appréciez. Faites passer. Parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tout ce qu'on veut. Je t'en donne pour la bibliothèque. Voilà. J'en fais passer. Il y en a pour tout le monde. J'en avais apporté un et ils l'ont laissé. Tu l'as lu, voilà. Allez, garde-en un pour toi, et puis t'en donnes.
À la librairie.
Oui, à la librairie, j'en ai laissé. Oui. Bon, qu'est-ce qui. Pour qui la tiens, fais passer. Caroline, t'en veux pas?
Oh, t'es la première.
Oui. Faites passer. Qu'est-ce qu'il y en a eu? Qu'est-ce qu'il n'y en a pas eu? Bon.